Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Ce drôle de philosophe qu'est Molière nous accompagne cette semaine. Alors après le bourgeois gentilhomme et Don Juan lundi, après l'école des femmes hier, pour cette troisième et ultime représentation aujourd'hui, nous n'allons pas nous en tenir à une pièce, mais à une idée que viendront illustrer cinq pièces, cinq extraits hilarants pour certains d'entre eux. Je vous promets que vous allez rire aux larmes. L'idée est la suivante, le rire de Molière est un rire qui pense. L'auteur de cette idée, de cette phrase, c'est le professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Paris-Sorbonne, Patrick Dandré. Bonjour cher Patrick Dandré.
Bonjour Adèle Vendrette.
Le rire qui pense, c'était l'idée que vous aviez émise en fin d'émission hier, puisque vous étiez déjà avec nous hier, et c'est le point de départ de cette nouvelle émission. Vous faisiez la comparaison avec l'évidence cartésienne. Le rire qui pense chez Molière est un rire qui a la même évidence que celle que brandit Descartes pour fonder la subjectivité.
Quand nous sommes au spectacle, effectivement, nous sommes happés par une représentation. Nous sommes donc dans un monde d'abstraction qui est en même temps un monde concret et incarné, puisque ce sont des comédiens qui sont là. C'est donc à la fois une lecture et une présence. Et nous sommes happés d'une façon physique aussi. Quand on filme des spectateurs, vous rappelez le célèbre passage du film de Bergman, La flûte enchantée, où l'on voit le visage d'une petite fille happée par la beauté de l'opéra de Mozart. C'est un très grand moment. C'est un moment où on voit ce que c'est qu'une pensée globale, une pensée qui est à la fois physique, morale, mentale, rationnelle et en même temps, c'est une prise. Et quand nous sommes pris, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Hein. On peut être fasciné et la fascination peut nous mener à n'importe quoi, voir les années 30 en Allemagne. Mais en même temps, il y a dans une fascination heureusement guidée une puissance d'intelligence qui est de l'ordre de l'illumination. Et je dirais que dans la théorie que Molière a donnée durant la théorie, dans les éléments de théorie que Molière a donné durant la querelle de l'école des femmes, il a analysé, il a voulu présenter cette révolution comique qu'il a réalisée, qui a consisté à nous dire que le ridicule de nos conduites ordinaires, qui sont assez fréquemment ridicules parce que nous dénaturons assez naturellement la nature dans nos conduites et dans notre vie sociale, eh bien, ce ridicule, lorsqu'il jaillit sur la scène du corps de l'acteur, il produit en nous une déflagration qui nous prend aux entrailles, c'est sa formule, et qui a pour effet de nous faire penser par le corps en nous mettant sous les yeux avec un sentiment d'évidence que nous nous trompons, que nous sommes ridicules. Alors évidemment, il y a aussi en scène des personnages qui, eux, ne sont pas dans une image déformée, qui ne sont ni des extravagants, ni des grotesques, ni des personnages qui se mentent à eux-mêmes. Ce ne sont pas des défroques, ce sont des êtres qui sont censés, qui ont du recul sur eux-mêmes et qui viennent de temps en temps donner une parole juste, qui viennent dire ce qu'il en est. Dans la querelle de l'école des femmes, il y avait des gens qui disaient des billevesées et des stupidités sur la pièce de Molière, et puis il y avait des gens raisonnables qui disaient « mais enfin non, examinons les choses ». Et dans les comédies de Molière, il y a souvent ainsi une parole, elle est tantôt portée par des gens, tantôt qui sont spécialisés là-dedans, des gens raisonnables, et puis tantôt, c'est de la parole qui vient comme cela, et où on sent que quelque chose se dit qui est juste et qui est net. Il y a une marque, me semble-t-il, de cette conception du comique dans une des pièces les plus étranges, les plus fulgurantes, dont effectivement Michael Edwards, je crois, a parlé lundi, qui est le Don Juan, parce que dans cette pièce qui s'inscrit au cœur d'une seconde querelle que Molière a eu à vivre après la querelle de l'école des femmes, qui est la querelle du Tartuffe, dans cette pièce, on a l'impression que quelque chose de l'évidence du rire vacille. Et autant le rire qui pense dans les autres comédies pense droitement, on sait vers où ça va. Ce sont, je dirais, des comédies orientées, vous voyez. Autant Don Juan est une comédie ouverte où on a l'impression que le rire se met à penser à ses propres égarements, à ses propres doutes, que la comédie se met à l'écoute de sa propre interrogation sur elle-même.
On prend un exemple dans Don Juan, vous pensez
à
quelle scène ?
Prendre un exemple d'un moment de vacillement. Je disais tout à l'heure que Don Juan s'inscrit dans la querelle de Tartuffe, donc la querelle de l'hypocrisie. Il y a un moment où Molière tord le mythe qu'il récupère, parce que c'est pas lui qui a inventé le thème, la fable, disons le mythe de Don Juan. C'est le moment où Don Juan se convertit à l'hypocrisie et où quelque chose se défait, se détruit de l'évidence du monde. On sent bien que c'est très mal ce que fait Don Juan à ce moment-là. Ce n'est peut-être pas immédiatement risible. Et Sganarelle, qui écoute ça, va être désarçonné. Eh bien, je crois que le Don Juan, c'est le moment du désarçonnement de la pensée du rire chez Molière.
Voici la scène 2 de l'acte 5 de Don Juan. Jean Villard dans le rôle de Don Juan, Daniel Sorano dans celui de Sganarelle. C'est une mise en scène du TNP de 1956.
Quoi, vous ne croyez rien du tout? Et cependant, vous voulez vous ériger en homme de bien?
Pourquoi non?
Il y a tant d'hommes comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde.
Quel homme! Quel homme! Quel homme!
Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de grimaces une société étroite avec tous les gens du parti qui en choque un, se les met tous sur les bras. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement tous les désordres de leur jeunesse, qui se font un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, deux roulements d'yeux. Rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me cacher et mettre en sûreté mes affaires. Oh, je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai son me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, mais je serai défendu par elle envers et contre tous enfin. C'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué contre peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je serai le vengeur des intérêts du ciel.
Cette conversion à l'hypocrisie de Don Juan, Patrick d'André, ne fait pas tellement sourire. Enfin, lui, ça le fait rire, mais...
Oui, on est admiratif devant la diction. Quelle merveille. Et vous savez que c'est d'autant mieux, je ne dis pas cela pour dire, bon, il joue bien, non, mais c'est un grand moment de rhétorique. Nous avons un peu perdu cela, nous n'entendons plus la rhétorique, nous ne sommes pas habitués à écouter du soliloque. Nous préférons le dialogue, et même au lycée, dans les cours.
Enfin, les discours d'un politique sont des grands moments de rhétorique.
Ah oui, mais il y en a de moins en moins, ils parlent comme tout le monde.
Ah, pensez-vous ?
Bon. Ici, c'est une forme rhétorique très particulière, c'est un éloge paradoxal. C'est une très ancienne forme qui remonte à l'éloge qu'avait fait le sophiste Gorgias d'Hélène de Troie. L'éloge paradoxal, c'est l'essence même d'une pensée qui se moque. C'est une pensée qui se met à rire. C'est-à-dire que vous prenez, vous feignez de prendre au sérieux des choses que vous ne trouvez pas justes et vous développez des arguments en leur faveur tout en sachant que votre public sait que vous n'êtes pas crédible et que ce n'est pas vrai. C'est magnifique, c'est un exercice que l'on a utilisé dans les écoles de rhétorique pour enseigner aux avocats à plaider pour et contre le même thème et qu'on enseignait aussi aux hommes politiques. Donc c'est une forme rhétorique forte. Molière lui a donné une puissance extraordinaire. Il l'a placé au cinquième acte de sa pièce et il l'a placé à un endroit névralgique. Pourquoi ? Parce que l'histoire de Don Juan, c'est assez compliqué. C'est le mélange de deux thèmes qui sont assez peu conciliables. D'un côté, c'est l'épouseur à toute main, c'est-à-dire que Don Juan conquiert toutes les femmes. Bon, et comme c'est un homme de plaisir, il court vers l'enfer, car chacun sait que la religion n'aime pas le plaisir. Donc, il y a un premier aspect qui est Don Juan suborneur. Ça occupe les deux premiers actes de Molière. Et puis, au troisième, soudain un tournant, il est en fuite, et là apparaît un second thème, qui va nous mener vers ce qui est la seconde origine du mythe de Don Juan, c'est le repas avec le mort, qui est une chose très profonde, qui remonte ethnologiquement à des millénaires. C'est l'idée qu'il ne faut pas troubler le sommeil des morts, parce que sinon ils viennent vous prendre par la main et vous entraînent en enfer. Donc il faut les laisser tranquilles. Et le mythe de Don Juan repose sur cette deuxième conception aussi, c'est le défi fait à une statue. La statue d'un personnage que Don Juan invite à dîner. Alors ça paraît très bizarre dans une comédie du XVIIe siècle, parce que ce genre de choses, de miracles, n'existe plus vraiment. Et donc nous sommes dans un rapport, si vous voulez, entre deux éléments, deux personnages de Don Juan, d'un côté le séducteur et de l'autre le défieur. Le défi qui va devenir le blasphème. Il y a un séducteur, il y a un blasphémateur. Comment unir les deux ? Alors, tous les gens qui ont le souvenir, non pas peut-être de la pièce de Tirso de Molina, qui a été la première version, mais du Don Giovanni de Mozart, se rappellent la solution, c'est que vous faites de la statue, c'est-à-dire du commandeur, le père d'une des filles qui a été violée par Don Juan. Alors là, ça marche très bien, parce que vous avez une jonction qui s'opère. Et Molière ne l'a pas souhaité. Il l'a pas fait. Il a inventé une fille qui s'appelle Elvire, qui est une nonne que Don Juan a épousée, et puis le lendemain des noces, il est parti parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Donc il a cocufié Dieu, si vous voulez. Et puis après arrive ce commandeur, qui n'a aucun rapport avec le reste de l'histoire, parce que le lien qu'il opère entre les deux est un lien structurel. C'est un lien de l'ordre de la perturbation. La séduction, chez Don Juan, est toujours vécue dans le Don Juan de Molière, sous la forme de la perturbation d'un couple, que ce soit le couple d'une religieuse avec Dieu, que ce soit le couple de deux jeunes fiancés qui ont l'air de tellement s'aimer qu'il a envie de les diviser, que ce soit le couple d'une jeune paysanne avec un jeune paysan qu'elle doit épouser. C'est le perturbateur, c'est le parasite. Et puis de l'autre côté, à l'égard de l'ensemble de la société, il y a un système de fâcherie et de perturbation qui fait que Don Juan est perturbé dans ses séductions par l'arrivée de gens qui sont pas d'accord et qui peuvent être son créancier, qui peuvent être son père qui lui fait des reproches, qui peuvent être la religieuse qui vient lui dire c'est pas bien ce que tu m'as fait, qui peut et ainsi de suite. Et puis notamment cette statue dont il va perturber le silence et qui va venir perturber les conquêtes de Don Juan et sa situation bien assise et bien installée. Et donc vous avez une sorte de lien structurel par quelque chose que Molière connaissait bien, qu'il appelait la fâcherie, les fâcheux. Il avait écrit une pièce là-dessus. Ce sont les gens qui viennent à contre-temps vous ennuyer, qui viennent vous perturber. C'est-à-dire ce que nous appelons, nous, en théorie moderne de la communication, le parasite, mais qu'on peut appeler la perturbation. Oui. C'est la perturbation généralisée. Alors que fait-il ? Au cinquième acte, Molière unit les deux et crée une sorte de lien entre séduction de toutes les femmes et défi blasphème, à travers cette forme particulière de perturbation du social qu'est l'hypocrisie, et qui va nous mettre devant une situation telle que comment répondre à ça ? Et face à cela, vous avez un Sganarelle effaré, Sorano, bon, on n'a pas entendu ce qui va suivre, et ce qui suit est une espèce de fatrasie dans laquelle Sganarelle mime un raisonnement mais qui est totalement perverti, qui est « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin se brise », et comme dit cet auteur que je ne connais pas, l'oiseau est sur la branche, mais il n'y a aucun lien, et ça se termine, et c'est pour ça que vous serez damné. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de logique, ça explose.
Donc là, le rire est plutôt celui de l'embarras, c'est celui de voir Sganarelle qui n'arrive pas à expliquer, à justifier.
Oui, la comédie est en proie au paradoxe, à l'incertitude. Je dirais que Sganarelle a une fonction qui est celle d'incarnation de la comédie. Il est la comédie. Il est la comédie effarée par le triomphe des hypocrites et qui s'interroge pour savoir si la dénonciation par le rire suffit. S'il suffit de faire rire pour que les apparences fallacieuses s'effondrent. Il y a donc un moment là de vacillement. Un moment où on peut dire que Sganarelle, en position de coryphée, d'ironiste, entre dans un relativisme général. Et où Molière s'interroge sur « puis-je encore faire des comédies ?» et « peut-on corriger les hommes par les comédies ?» Vous savez que juste après le Don Juan, il va écrire une autre pièce qui s'appelle « Le Misanthrope ». Et que dans « Le Misanthrope », il y aura ces deux vers absolument stupéfiants par un personnage qui d'ailleurs loue Molière lui-même en scène, qui s'appelle Philinte, et qui dit à un ami trop vertueux, trop épris de vérité, et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Alors que fait Molière ? Sinon vouloir se mêler de corriger le monde par les comédies.
Ah mais veut-il corriger le monde ? Veut-il simplement le montrer ou faire rire ?
Ah ben normalement la comédie Castigat, Ridendo Mores, corrige les mœurs en faisant rire.
Oui mais donc, on dit cela pour faire plaisir au roi.
Écoutez, quand on entendait hier des extraits de l'École des femmes, on a quand même l'impression qu'il y avait chez Molière une forte indignation à l'égard de la conduite de certains maris et une certaine intention de dire que la liberté c'est mieux. Donc je pense que Molière est réellement un philosophe engagé, si vous voulez. Bon, il n'est pas un philosophe au sens où il ne fait pas des traités. Il écrit des œuvres, c'est un artiste, mais c'est un artiste qui a un engagement. Et il n'y aurait pas eu la querelle de Tartuffe s'il n'y a pas eu un engagement. Donc je pense que dans le Don Juan et peut-être aussi un peu dans le Misanthrope, le rire s'interroge lui-même à l'intérieur de lui-même. Et quand je parle d'un rire qui pense, la plupart des comédies, c'est clair, ce sont des comédies orientées où on voit que le rire dénonce les ridicules. Il y a au moins ces deux pièces, Don Juan et peut-être le Misanthrope, où le rire commence à s'interroger sur sa mission, sa fonction et ses effets.
Alors avant d'en venir aux comédies implacables, voici un extrait du Misanthrope, la première scène du premier acte. Alceste s'interroge et s'indigne de la nature humaine qui est corrompue par l'hypocrisie. C'est François Beaulieu qui joue le rôle.
Tête bleue ! Ce sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains.
Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage. Avec sobriété, cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle. Et les communs usages, elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie, à nulle autre seconde, de vouloir se mêler de corriger le monde. J'observe comme vous 100 choses tous les jours qui pourraient mieux aller prenant un autre cours, mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile.
Ainsi, quiconque s'y connaît fuit alors l'excès et le défaut. Il cherche au contraire le milieu, et c'est lui qu'il prend pour objectif. Et ce milieu n'est pas celui de la chose, mais celui qui se détermine relativement à nous. Dès lors, si c'est ainsi que toute connaissance réussit à remplir son office, en gardant en vue le milieu et en œuvrant dans sa direction, d'où l'habitude de déclarer à propos des œuvres réussies qu'on n'y peut ni retrancher ni ajouter quoi que ce soit dans l'idée que l'excès et le défaut ruinent la perfection tandis que la moyenne la préserve. Et si de leur côté les bons artisans l'ont en pointe de mire lorsqu'ils travaillent, mais que la vertu comme la nature surclasse toute forme d'art en rigueur et en valeur, alors la vertu est propre à faire viser le milieu. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez Molière, puis Aristote. Je viens de lire un extrait de l'Éthique à Nicomaque, qui venait ponctuer l'extrait, le début du Misanthrope de Molière. J'ai listé François Beaulieu en Alceste, mais on a surtout entendu Michel Duchossois en Philinte. Et il est vrai que ce texte d'Aristote éclaire en tout point le texte de Molière.
Oui.
Patrick Dandré.
Ça l'éclaire parce que nous sommes devant une confrontation entre un homme qui veut la vérité, qui veut la sincérité, qui est parfaitement estimable, mais qui la veut un peu à contre-temps et qui fait que nous avons tendance à rire de lui. Et puis, face à lui, un homme qui est dans la modération, dans la mesure dont on peut penser que ses compromis touchent un peu à la compromission. Et souvent, on se dit, comment choisir ? Faut-il choisir l'héroïsme de la vertu ou la sagesse de compromis, quitte à passer pour un tiède et un demi-habile ? Est-ce qu'il n'y a pas en Alceste une dimension de résistance qui fait que chez Philinte, on pourrait trouver quelque chose qui est de l'ordre de la compromission et peut-être de la collaboration ? Voilà. Et je pense que pour sortir de ce dilemme, pour sortir de cette difficulté qui est quand même la crise de la comédie s'interrogeant, est-ce que je ne viserais pas une vertu absolue et intraitable et infaisable ? Et est-ce que finalement je ne suis pas à contre-temps du monde ? Et est-ce que je ne dois pas me taire ? Et est-ce que je dois peut-être perdre mon intention de philosopher ? Est-ce que la comédie a pour but de penser ? C'est le moment où Molière s'interroge sur ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment faire penser le rire ? Bon, et là, une réponse, qui est une réponse que, me semble-t-il, le texte d'Aristote nous permet de comprendre, c'est que tant que nous en restons à l'affrontement entre Alceste et Philinte, c'est-à-dire l'affrontement entre l'absolu et le relatif, nous n'en sortons pas. Mais nous oublions peut-être qu'ils parlent tous les deux d'une troisième personne qui est Célimène. Et que Célimène, c'est le néant, la vacuité, le charme, mais le charme du vide. C'est la coquette, c'est la jeune veuve libre d'elle-même, et c'est la personne qui ne sait pas très bien elle-même où elle en est, tellement elle est livrée au simple plaisir.
Elle est dans la séduction.
Elle est dans la séduction et dans le mensonge, c'est une sorte de Don Juan féminin. Et lorsqu'on les met alors côte à côte, on comprend la philosophie qui est derrière cela, qui est une philosophie fondamentale au XVIIe, c'est que la vertu n'est pas dans l'excellence, la vertu est dans la moyenne. Par exemple, le courage, ce n'est pas l'opposition seulement à la pusillanimité, c'est l'opposition aussi à la témérité, et qu'il faut être à l'intermédiaire. Il faut imaginer le misanthrope comme un triangle qui a d'un côté à sa base Alceste, de l'autre côté à sa base Célimène. Le côté d'Alceste, c'est la vertu à tout craint et en dehors de toute circonstance et situation. Célimène, c'est l'absence de vertu, le plaisir, le vide, la vacuité, le néant, charmant. Et puis entre les deux, vous avez Philinte, qui accepte ce qu'il y a de charmant dans Célimène et qui prend ce qu'il y a de vertu dans Alceste, mais qui dit « il faut appliquer ça à bon escient en trouvant la résultante des contraires ». Et cette éthique à Nicomaque, qui nous montre que la pièce de Molière est pleine de savoir, pleine de philosophie, puisque c'est ce dont nous parlons et c'est ce que nous cherchons à établir, Molière en a fait je dirais le support de la distribution de ces personnages, de la structuration des caractères, de la structuration de la comédie. Il ne le dit pas exactement. Bon, bien sûr, Philinte vient de le dire, mais il le montre. Et ce que dit Philinte, nous ne le comprenons pas et nous ne l'entendons pas pour le point de fuite de la comédie, la résultante, je dirais, des interrogations posées par Don Juan, car le misanthrope répond aux interrogations de Don Juan, il y répond par la distribution entre les personnages et par la manière dont la pièce va être conduite jusqu'à la perte d'apparence, de figure, de personnage de Célimène qui continue dans sa vacuité et l'excès toujours présenté d'Alceste. Et ces deux contraires, la comédie les met en scène avec leur évidence, nous les reconnaissons, nous y reconnaissons, ils sont des parts de nous-mêmes. J'ai coutume de dire que Alceste, c'est le type que je suis à 11h du soir quand j'écris un courriel extrêmement vindicatif, mais que j'ai la prudence, comme Philinte, de le mettre dans « Envoyer plus tard », et quand je le relis le lendemain matin, je ne l'envoie pas. Vous voyez, c'est un peu cela, nous sommes les deux. Mmh. Et puis il y a aussi le plaisir de plaire, il y a aussi le côté Célimène. Voilà. Et tout cela qui fait de l'humanité, Molière le met en place et le met en place structurel.
C'est-à-dire que derrière les ressorts de la comédie qui consistent à proposer des personnages souvent caricaturaux, la philosophie de Molière serait au contraire une philosophie du juste milieu.
J'ai même l'impression que Molière ne caricature jamais. Ce que j'essayais de dire hier, c'est que la comédie chez Molière prétend que la caricature, elle est dans le réel. Il y a des Alcestes, nous les connaissons.
Alceste, oui, mais Arnolf, dont on parlait hier, le monsieur Jourdain, ils sont plus dans la caricature qu'Alceste.
Justement, il me semble que ce qui est alors présenté, c'est combien nous sommes capables, et peut-être pire, des monsieur Jourdain, j'en connais, vous savez.
Ah, mais ça ne veut pas dire que la caricature n'est pas réelle, en effet.
Voilà. C'est donc que Molière ne transforme pas le réel, il le livre à nos regards, il nous livre l'image de nous-mêmes que nous donnons lorsque nous sommes victimes, et bien justement victimes des images. Et c'est ce qui arrive à Alceste, c'est le plus terrible, c'est que l'image dont Alceste s'est engouée, c'est une image de vertu et de perfection, donc normalement ça devrait le mener vers la sainteté. Eh bien oui, mais quand vous faites de la sainteté à tout bout de champ, vous devenez un peu comme Tartuffe qui prétend s'être accusé devant le ciel d'avoir pu tuer une puce avec trop de colère. Il y a des moments, vous voyez, où même la sainteté, il faut l'accommoder, il faut l'approprier. C'est cette notion d'appropriation, cette notion du quod decet, ce qui convient, cette notion de la convenance, de la bienséance, qui était une notion fondamentale dans la pensée du XVIIe siècle, qui n'est pas seulement une notion artificielle et mondaine, c'est aussi l'art de comprendre que les choses n'ont pas de valeur en dehors de leur pratique et que la comédie, elle a pour but de nous montrer par l'exemple, par l'expérience, comment on met en pratique des valeurs que tout le monde reconnaît, mais que nous ne savons pas toujours appliquer. Prenez cela en politique. Nous sommes le pays des droits de l'homme, nous aimons les faire respecter. Faut-il pour cela, par exemple, ne pas parler avec les gens qui ne les respectent pas? Comment se comporter? Et vous avez alors des attitudes différentes. Moi, je ne les juge pas, mais des attitudes qui sont... Est-ce qu'il faut rompre avec tous les tyrans? Est-ce qu'il faut les accepter comme ils sont et se mettre à dialoguer avec eux? Est-ce qu'il faut, dans un cynisme total, pactiser avec eux parce que c'est pratique pour nos affaires?
Celui qui en fait sa philosophie et qui est contemporain de Molière, c'est le philosophe Blaise Pascal, qui, avec sa distinction entre l'habile et le demi-habile, pointe exactement ce que vous dites. Le demi-habile est celui qui dénonce l'absence de certitude, de légitimité des lois et des relations sociales et qui s'en indigne et qui refuse de rentrer dans le jeu. L'habile est celui qui, dit Pascal, a la pensée de derrière et qui sait très bien que tout est vain, mais décide quand même de jouer le jeu pour mieux se transformer, pour mieux essayer de, non seulement de s'accoutumer de ce qui est, mais aussi faire advenir la réflexion.
C'est-à-dire qu'il y a un usage de l'image, de la représentation, de la mise en situation qui est civilisateur, et puis vous avez un usage de l'image dont on s'engoue, dont on se pénètre au point tel que l'on devient une caricature vivante.
J'ai promis qu'on allait rire pendant cette émission. Cheminons vers le rire avec ce prochain extrait, vous l'avez un peu évoqué, il s'agit d'un autre extrait du Bourgeois Gentilhomme, on en parlait lundi dernier avec Michael Edwards, mais cet extrait en particulier, on ne l'a pas entendu. C'est le moment où Monsieur Jourdain rencontre le Turc, le grand Turc, qui va lui apprendre à parler. Est-ce que vous voulez en dire un mot avant qu'on l'entende, Patrick Dandré?
Disons que Monsieur Jourdain est un bourgeois qui a une idée fixe. Dans l'école des femmes, Molière a donné un nom à cela, c'est une marotte. Il y avait une marotte d'Arnolphe qui consistait à vouloir que tous les hommes soient des cocus. Il y a une marotte du malade imaginaire qui est de vouloir être malade. Il y a une marotte de la science chez les femmes savantes. Il y a une marotte de l'argent chez Harpagon. Il y a une marotte du bourgeois gentilhomme qui est la naissance, la gentilhommerie. Puis alors, par-dessus cela, il y a un second aspect, un second pôle, si vous voulez, dans les folies chez Molière, ce sont les chimères. C'est un mot également que l'on trouvait dans l'école des femmes, où Arnolphe avait décidé de se faire nommer Monsieur de la Souche parce qu'il avait un tronc pourri à l'intérieur d'une métairie et que ça avait donné un titre de noblesse. Et donc, ces chimères, c'est fondé sur du vent, et il y a chez Monsieur Jourdain une marotte de gentilhommerie qui va évoluer grâce à une ruse, parce qu'on lui joue un tour, une mystification, pour qu'il accepte le mariage de sa fille avec un roturier. Et cette marotte, c'est lui faire croire que le fils du grand Turc va épouser sa fille, en fait c'est le charmant jeune homme déguisé en fils du grand Turc, et que Monsieur Jourdain va être nommé Mamamouchi, ce qui est un titre totalement chimérique et qui va évidemment satisfaire ses ambitions de noblesse. Il n'est né ni comte ni marquis, comme le comte d'Orante qui se moque de lui et profite de ses subsides grâce à ses visions de noblesse. Et le fils du grand Turc va emporter Monsieur Jourdain dans le monde de la vaine chimère, dans le monde des apparences, dans le monde de l'onirisme en quelque sorte, et sanctionner en somme son envol sur les ailes du songe dans le monde des rêves.
Vous savez que le fils du grand Turc est ici?
Moi, non.
Comment? Il a un train tout à fait magnifique, tout le monde le va voir. Il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance.
Alors, ma foi, je ne savais pas cela.
Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille.
Le fils du grand Turc?
Oui, et il va être votre gendre.
Mon gendre? Le fils du grand Turc?
Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir, et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi, et entre autres discours, il me dit « Hakiam Kroksoler, Ushelem, Mustef Gidelhum, Varare, Osserakapulat ». C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune, belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien?
Le fils du grand Turc dit ça de moi?
Oui, comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. « Hum !» me dit-il, « Marababassahum !» C'est-à-dire, « Ah, oh, que je suis amoureux d'elle !»«
Marababassahum veut dire « Ah, que je suis amoureux d'elle » ?»«
Oui !»«
Eh bien, vous faites bien de me le dire !» Pour moi, j'aurais jamais cru que ce Marababassahum, il voulait dire « Ah, que je suis amoureux d'elle !» Voilà une langue admirable que le Turc.
Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous ce que veut dire « Kakarakamouchem » ?«
Kakarakamouchem » Non, je ne sais pas.
C'est-à-dire « ma chère âme ».
« Kakarakamouchem » veut dire « ma chère âme »
Oui.
Oh, voilà qui est merveilleux. « Kakarakamouchem »«
Ma chère âme !» Dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays.
Mamamouchi?
Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin.
Oui.
Paladin. Paladin, ce sont de ces anciens...
Oui.
Paladin ?
Oui, enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde, et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre.
Son Altesse Turque m'honore beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui pour lui faire mes remerciements.
Comment ? Le voilà qui va venir ici.
Il va venir ici ?
Oui ! Et il amène toute chose pour la cérémonie de votre dignité.
Et voilà que c'est bien prompt.
Son amour ne peut souffrir aucun retardement.
Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléon. Et elle jure de n'épouser personne que celui-là.
Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du Grand-Turc.
Et puis il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du Grand-Turc ressemble à ce Cléon.
Un peu de choses près, je viens de le voir, on me l'a montré.
L'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Je l'entends venir, le voilà.
Et le fils du Grand-Turc est en effet ce Cléonte lui-même. C'est ce jeu d'imposture qui fait tout le charme de cette pièce. Alors, dans cette scène, on entend aussi à la fois l'effet comique, les mots turcs inventés produits sur le spectateur. Mais lorsque Coviel fait référence au paladin, bah, finalement, ni l'un ni l'autre ne peuvent définir ce que c'est. C'est assez drôle parce qu'il y a comme une mise en abîme du langage dont on ne comprend pas, dont on ne peut pas définir la signification qui finalement produit le même trouble qui peut soit faire rire, soit provoquer une sorte d'embarras. Patrick Dandré.
Oui, c'est une scène admirablement jouée. Hein. Je ne sais pas qui sont les acteurs.
Jean Le Poulain dans le rôle de Monsieur Jourdain, Guy Michel dans le rôle de Coviel. C'était une mise en scène à la Comédie Française en 1980.
Oui, Le Poulain était merveilleux dans ce genre de choses. C'est un passage qui est comme c'est le bouquet de feux d'artifice. On a fait monter la chose. Pendant les premiers actes, Monsieur Jourdain est la proie de différents spécialistes qui viennent le servir, des maîtres à danser, maîtres de musique, maîtres tailleurs, maîtres philosophes, maîtres d'armes. Et on a l'impression que ce personnage, mu par cette chimère de gentilhommerie, se dévait de lui-même pour se revêtir des pellicules de déguisement que ses différents maîtres imposent à son corps. Monsieur Jourdain s'efface et il laisse place à des mannequins, à des marionnettes qui sont ceci. Et lorsque tout sera fini et qu'on l'aura habillé par un vêtement que ordinairement les metteurs en scène s'arrangent pour rendre totalement grotesque, la scène s'ouvre de l'acte 3 par son apparition dans ce déguisement et sa servante Nicole explose de rire et nous dit vraiment ce qu'est le rire puisqu'elle relaie en scène ce que doit être notre réaction. D'ailleurs, c'est notre réaction quand la pièce est bien jouée, quand c'est bien monté, parce que c'est très drôle ce personnage qui est un carnaval ambulant finalement. Et donc nous avons l'impression que le personnage a été aboli par l'image qu'il s'est faite de lui-même. Son image a dévoré son être. Il n'est plus que artifice parce que son obsession l'a rendu chimérique. Et à partir de là, peut commencer cet envol dans l'autre monde. C'est Monsieur Jourdain au Pays des Merveilles. C'est-à-dire le fils du Grand Turc, la cérémonie, enfin tout cela. Et ce passage de l'un à l'autre, ça nous montre que Monsieur Jourdain est devenu comme un oignon. C'est une série de pellicules. Vous avez des pellicules qui le revêtent et vous savez qu'au cœur de l'oignon, on ne trouve pas grand-chose, sinon des pellicules. C'est un peu cela. Le chimérique, c'est un personnage qui est ainsi emporté par le vent. La première comédie que Molière a jouée à Paris, c'était les précieuses ridicules. Le mot de ridicule était donné et le mot de précieux est significatif. La préciosité, c'est une doctrine qui a été développée dans les romans, qui a été présentée de façon un peu amusée ou amusante comme une image de perfection, mais qu'on ne peut pas actualiser. Et il y a deux provinciales un peu sottes qui croient qu'il faut vivre comme ça et donc qui, au lieu de dire apporter un fauteuil, disent véhiculez-nous ici les commodités de la conversation parce que la périphrase, ça fait chic. Et il y a dans cet élan vers le n'importe quoi, vers la chimère, une sorte une analyse en acte de ce que sont les périls de l'imagination. Il y a un péril de l'imagination chez Monsieur Jourdain qui lui fait gober qu'il est devenu Mamamouchi, ce qui n'existe pas. Et cet anéantissement qu'a produit en lui la marotte et tous ses maîtres qui sont venus anéantir sa personne au profit de son personnage, lui permet, dans un second temps, en somme, de pactiser avec le néant et d'entrer dans la fiction. Et ce que nous dit cette pièce, c'est comment une fiction probe nous révèle que dans le réel, nous sommes souvent la proie de fictions fallacieuses. Vous voyez comment se renversent les choses et comment finalement c'est la comédie qui est vraie et c'est le monde qui est faux. C'est la comédie qui est probe, c'est le monde qui est caricatural. Comment entre l'œuvre d'art et la réalité, le statut d'être et de néant s'inverse.
Y compris dans les pièces les plus, j'allais dire caricaturales, même si vous pensez que la réalité est aussi caricaturale que les pièces. Mais si on prend les Fourberies de Scapin, où pour le coup, la fameuse scène de coups, le personnage est roué de coups dans son sac, qui fait toujours rire, la comique oui. de répétition, mais que diable allait-il faire dans cette galère où les ficelles sont peut-être plus épaisses que dans d'autres pièces, vous pensez que là aussi il y a un renversement?
On peut penser que c'est seulement ornemental, que c'est seulement une scène de coups de bâton. Oui. Mais si nous pouvons l'écouter, je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas que ça.
Cher Patrick Dandré, vos désirs sont des ordres aujourd'hui. Voici Robert Hirsch dans le rôle de Scapin, Michel Aumont le revoici dans le rôle de Géronte, une mise en scène de la Comédie française de 1956.
Diable, monsieur le Gascon.
Scapin, je n'en puis plus.
Ah, monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable.
C'est sur les miennes qu'il a frappé.
Mais oui, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait.
Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, les sens bien encore.
Oui, vous dis-je. Ce n'était que le bout du bâton qui est allé jusque sur vos épaules.
Ben, tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner.
Cachez-vous! Voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble! Alors, tâchons à trouver ce Géronte. Cherchons partout. Ouais. Cachez-vous bien, hein?
Ouais. Oh, camarade, voici son valet.
Allons, Coquet, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Oh, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est.
Parle à de toi. Dépêche vite, expédions.
Hey, messieurs, doucement. Oui. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur ton dos une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter? Voilà.
Alors on peut rire de ce qu'on imagine se passer sur scène, on peut rire de l'épuisement des acteurs dont on entend bien qu'ils sortent d'un corps à corps assez long, on peut rire du rire des spectateurs qui semblent ne pas pouvoir s'arrêter de rire, mais on aimerait rire, Patrick Dandré, aussi parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer dans cette scène, alors expliquez-nous.
Alors c'est une scène très complexe où Scapin se démultiplie. Il a mis Géronte, le vieil homme, dans un sac, il veut se venger de lui en lui faisant croire que viennent des spadassins qui veulent du mal au dit Géronte. Et Scapin, qui est à l'extérieur et que Géronte ne voit pas puisque Géronte est dans le sac, joue le rôle du spadassin et son propre rôle à lui et feint que le spadassin ou les gens qui en veulent à Géronte font tomber des coups de bâton sur son dos à lui Scapin, mais en réalité Scapin donne les coups de bâton sur le sac. Et donc lorsque le spadassin imaginaire est reparti, Scapin feint d'avoir le dos tout moulu et sans plein, et c'est Géronte qui a tout pris. Et donc Géronte sort du sac en disant « Ah mon Dieu, mais non, c'est sur moi que c'est tombé !» Et l'autre lui dit « Ah mais non, c'est sur moi !» Et ça continue par « Attention, voilà un autre !» Et il le remet dans le sac, et Scapin refait la scène. Et Scapin devient là l'incarnation de la comédie. C'est une chose absolument sublime à jouer. Hirsch s'en donne à cœur joie. Il y a eu une très belle mise en scène où Arnaud Denis jouait Scapin et le faisait admirablement. Il m'a confié qu'il avait perdu, je crois, 10 kilos après les représentations. C'est un moment où le personnage joue plusieurs rôles. Il joue, vous avez entendu, il prend un accent un peu du midi. Où il monte à lui-même sa propre comédie. Et puis, à la fin... Et on ne peut pas l'entendre parce que ce n'est pas de la parole. Géronte sort la tête du sac. Il s'aperçoit que Scapin est en train de faire son numéro à lui tout seul et joue à plusieurs personnages, etc. Bref, Scapin fait du théâtre dans le théâtre. Géronte sort et comprend qu'il a été abusé. Que se passe-t-il à cet endroit? On peut penser que c'est seulement de la comédie, que c'est seulement une farce, de la comédie farcée. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la comédie qui s'interroge sur la prise à son propre piège. C'est la comédie qui s'interroge sur le péril de l'image. Que se passe-t-il en effet? Pourquoi Scapin se laisse-t-il prendre? Parce que, empereur des mystificateurs, roi des fourbes, il en a trop fait. Il s'est laissé prendre parce que il est tellement content d'avoir monté toute cette histoire avec tous ces personnages, ça servait plus finalement, qu'il ne se rend pas compte que Géronte sort du sac. Scapin est entré dans son rêve. Scapin est devenu Mamamouchi. Il est entré dans le piège auquel M. Jourdain s'est pris. Et il s'est pris lui-même à son propre piège. Et je vous disais, durant le Don Juan, Molière s'interroge sur le rire, peut-il corriger, doit-il. Le misanthrope, interrogation à nous. Dans les Forbrets de Scapin, vous avez la même interrogation. Jusqu'où la comédie peut-elle faire aller le rire sans tomber elle-même victime de l'image qu'elle se donne de son rôle ? Scapin, ici, c'est le risque couru par l'auteur comique. C'est le risque couru par celui qui n'est plus maître des images qu'il lance et qui, en quelque sorte, devient, par un effet de retour de bâton, si j'ose dire, la victime de la mystification qu'il a réalisée, vous voyez. Et donc, derrière cette scène qui peut paraître simplement amusante, qui est charmante, il y a une pensée. Il y a une pensée sur le péril de l'image. Il y a une pensée sur le piège du comédien pris à son propre piège. Vous savez, le paradoxe du comédien, mais aussi le Saint Genet qui joue un rôle de chrétien, se convertit parce que le rôle l'a converti. C'est une interrogation que tous les grands poètes comiques ont eue. Une interrogation sur la capacité pragmatique, en somme, qu'a le rire, qu'a le texte comique. Est-ce que le comique ne nous fait pas entrer dans la fiction ? Est-ce que, à force de pactiser avec le fictif, nous ne devenons pas des êtres de feinte ?
Trois et deux font cinq. Et cinq font dix. Et dix font vingt. Trois et deux font cinq. Plus du 24e. Un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Ah oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil, faut être aussi raisonnable. Et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols, en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà, 10 sols. Plus de 10 jours. Un bon clistère détersif, composé avec 4 tolicons doubles, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols, avec votre permission, 10 sols.
L'action se déroule dans la chambre de monsieur Dargan, un riche bourgeois qui se croit malade, qui s'est livré aveuglément au médecin. Il revoit la mémoire mensuelle de son apothicaire, monsieur Florent, il modifie les chiffres et les totaux, il voit avec inquiétude que finalement il a peut-être pris moins de médicaments et il a fait moins de lavements que le mois précédent. Ce qui suscite en lui une peur bleue parce qu'il est, alors on dirait aujourd'hui, hypochondriaque. Molière a appelé cette pièce le malade imaginaire. Patrick Dandré.
Alors c'est une scène stupéfiante. Stupéfiante.
Elle continue après presque plus de 7 minutes. C'est pour ça qu'on est obligé de la perdre alors que je vous parle.
Ce soliloque monologué, alors que nous venons d'entendre l'une des scènes les plus pétulantes, celle des Forbrets de Scapin, avec cette ouverture, cette exacerbation, cette puissance d'expression. Là, nous avons une puissance toute concentrée, toute refermée, avec un texte qui est totalement original. Je disais hier à propos de l'École des femmes qu'il y a une révolution du comique, qu'il y a une nouveauté absolue chez Molière. Cette nouveauté est totale. C'est un long monologue d'introduction, on n'en fait plus depuis des années, sur la scène du théâtre. C'est une exposition qui n'expose rien, puisqu'on n'apprend rien de l'intrigue, du mariage, de sa fille. On voit un type qui parle de ses médications. Et c'est en même temps une espèce de délectation très énigmatique, une délectation médicamenteuse. Ordinairement, prendre des médicaments, surtout à cette époque-là, vu le goût qu'ils avaient et la façon dont on les administrait, ce n'est pas très drôle. Et pourtant, à travers ça, vous comprenez immédiatement cette chose considérable qui va être le cas Argan, ce personnage stupéfiant de profondeur. Je parle souvent d'anthropologie à propos de Molière. Là, il y a vraiment une analyse spectrale de l'homme, puisque ça s'expose à rien, oui, mais ça expose Argan, et Argan, c'est tout. Dans le malade imaginaire, il n'y a que lui. Les autres autour ne servent qu'à le servir. Ensuite, vous y comprenez, dans cet inaccoutumant, cette originalité, son narcissisme, c'est-à-dire qu'il fait comme personne, il vit comme personne, c'est un être d'une totale originalité. Et en même temps, on comprend l'énigme de cette délectation, il s'agit d'une forme d'adhésion à soi-même qu'Argan médiatise par l'intermédiaire, par les médicaments, dans un rapport à son corps qui va être le sujet de toute la pièce. Et nous sommes là devant l'analyse de Molière philosophe. Bon, il y a beaucoup de comiques, il y a beaucoup de dénonciations, il y a des choses. Mais il y a un comique qui pense ici, c'est le rapport de l'homme au corps. C'est le rapport d'un homme à son corps et le rapport d'un homme qui se trompe par rapport à son corps. Il l'objective. Vous savez que nous avons une façon bizarre de parler de notre corps en utilisant le verbe avoir. Nous avons un corps. Mais très franchement, si on y réfléchit, nous sommes plutôt un corps parce que mis à part un corps, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous sommes? Vous voyez? Donc, avoir un corps, c'est déjà une formule étrange. Eh bien, Argan a tellement un corps qu'il l'objective à un point tel qu'il l'aliène. Il ne reçoit plus de communication normale de son corps. Il imagine que son corps est malade. Il n'en a même pas la sensation. Il en a, dirais-je, l'impression, ou du moins l'idée fixe. C'est une obsession. Cette obsession va construire en lui un besoin chimérique d'une science chimérique qui est la médecine. Ou plutôt, parce que ce que je viens de dire n'est pas tout à fait juste, on ne sait pas si c'est parce qu'il a un amour chimérique de la médecine qu'il se croit malade pour avoir le plaisir d'être soigné, dorloté, traité comme un enfant, ou si c'est parce qu'il se croit malade et qu'il a l'obsession de mourir bientôt qu'il entre dans la chimère de la médecine. Nous sommes devant le parfait cercle vicieux, qui est le cercle vicieux d'une chimère qui a besoin d'une marotte et d'une marotte qui a besoin d'une chimère à propos de quelqu'un qui est aliéné à soi-même au sein du plus exacerber des narcissismes possibles.
Ce qui fait d'Argan l'archétype du personnage.
L'archétype des personnages moliériens, oui, tout à fait. Dans la mesure où il réunit les deux éléments, il les unifie dans un cercle vicieux et il intègre tellement sa lubie qu'il fait de son corps l'objet de sa lubie. Vous avez des gens qui ont des lubies très variées. Ça peut être l'argent, la richesse, ça peut être la dévotion, la religion.
C'est le cas de l'avare, c'est le cas du dévot,
oui,
pas des tartuffes.
Le savoir, c'est les femmes savantes. Ça peut être même, je dirais, le plaisir de l'amour, enfin le plaisir des femmes avec Don Juan. Ce sont des obsédés de valeur. Vous avez des gens qui, sans goût pour du vent, nous avons entendu tout à l'heure M. Jourdain et son mamamouchisme. Nous avons des personnages qui, sans goût pour des provinciaux, par exemple, qui se croient merveilleux, des gens qui, sans goût pour une littérature qui n'a aucune valeur, les Trissotins et autres Vadius, les savants, les pédants. Tout ça, c'est aéré. Chez Argan, c'est lui-même qui est l'objet de sa lubie. Lui-même en tant que corps, et lui-même en tant que corps mis à distance de lui-même, puisque devenu objet. Vous avez remarqué que Argan est un objet, c'est un objet de soin, c'est un objet d'intérêt, c'est un objet d'examen, c'est un objet de pitié, enfin il voudrait bien être un objet de pitié. Il est objectivé, et il révèle dans la puissance qu'a notre imagination, la capacité d'aliénation que nous avons, au point que de nous-mêmes nous faisons un autre et que notre corps nous en faisons un objet dégagé, séparé du sujet. Là, nous entrons dans le dualisme de la pensée occidentale. Adèle, je vous rends la parole parce que c'est de la philosophie.
Et surtout, moi, je ne prends la parole que pour vous proposer un dernier extrait, l'espèce d'apogée du malade imaginaire, et on se quittera avec cet extrait. Il faut imaginer que Monsieur Purgon, le médecin, a proposé un lavement qu'Argan a refusé de prendre. Lorsque Monsieur Purgon l'apprend, il entre, il fait irruption dans la chambre et lui passe un savon monumental. Écoutez la réaction d'Argan, c'est Alain Pralon qui joue ce rôle et Christian Blanc dans le rôle de Monsieur Purgon. C'est à la fois désespérant et désopilant.
Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances. Et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit.
Monsieur, ce n'est...
Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin.
Cela est épouvantable.
Un clister que j'avais pris plaisir à composer moi-même.
C'est pas moi.
Inventer.
et formé dans toutes les règles de l'art.
La tort.
Et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux.
Mon frère.
Le renvoyer avec mépris.
C'est lui.
C'est une action exorbitante.
Cela est vrai.
Un attentat énorme contre la médecine.
Il est con.
Un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir.
Vous avez raison.
Je vous déclare que je romps commerce avec vous.
C'est mon frère.
Que je ne veux plus d'alliance avec vous.
Vous ferez bien.
Et que pour finir, toute liaison avec vous. Voilà. La donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage.
Oh ! C'est mon frère qui a fait tout le mal !
Méprisez mon clistère.
Faites-le venir, je m'en vais le prendre.
Je vous aurais tiré l'affaire avant qu'il fût peu.
Il ne le mérite pas.
J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs.
Oh, mon frère !
Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac.
Il est indigne de vos soins.
Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains...
C'est pas ma faute.
Puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin...
Sacrée vengeance.
Puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais...
Ah, point du tout.
J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution.
Oh.
À l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs.
C'est fort bien fait.
Oh mon Dieu. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours... Vous deveniez dans un état incurable.
Oh, miséricorde.
Que vous tombiez dans la bradypepsie.
Monsieur Purgon.
De la bradypepsie dans la dyspepsie.
Monsieur Purgon.
De la dyspepsie dans la pepsie.
Monsieur Purgon.
De la pepsie dans la liantrie.
Monsieur Purgon.
De la liantrie dans la dysenterie.
Monsieur Purgon.
De la dysenterie dans l'hydropisie.
Monsieur Purgon.
Et de l'hydropisie dans la privation de la vie. Vous aura conduit votre folie.
Oh. Oh mon Dieu, je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu.
Mais quoi ? Qu'y a-t-il ?
Je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge.
Ma foi, mon frère, vous êtes fou. Je ne voudrais pas pour beaucoup de choses qu'on vous vit faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, revenez à vous-même. Et ne donnez point tant à votre imagination.
Et oui, c'est pas tant l'absence de médicaments que les mots qui peuvent tuer. Un grand merci à vous, Patrick Dandré, d'être venu nous parler de Molière hier. Et aujourd'hui, j'en profite pour renvoyer à la lecture de votre livre « La médecine et la maladie dans le théâtre de Molière » aux éditions Klingsic.
Merci.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Dans votre journal quotidien de philosophie, aujourd'hui, vous revenez sur la catastrophe de Fukushima survenue il y a 7 ans.
Oui, à l'occasion de la parution de Fukushima et ses invisibles, cahier d'enquête politique, un ouvrage collectif paru aux éditions des Mondes Affaires. Ce livre rassemble des témoignages de Japonais engagés contre la gestion de la catastrophe. Mais au-delà de cette dimension politique indéniable, ce livre pose à nouveau frais la question de la catastrophe et de sa gestion. Toujours singulière, une catastrophe ne cesse précisément de défier l'universalité présumée de nos règles et normes pour agir. Alors, comment faire quand la vie doit reprendre son cours alors que tout a changé ? La catastrophe de Fukushima s'est déroulée en 3 temps. Le premier, c'est celui que l'on devine à travers les sons de cette vidéo. Le vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un tremblement de terre de magnitude 9 a frappé le nord-est du Japon. 51 minutes plus tard, des vagues de plus de 15 mètres ont pénétré à l'intérieur des terres. Mais ce n'est qu'en 2015, 4 ans plus tard, donc, qu'on a obtenu un bilan chiffré du séisme et du tsunami. 15 814 morts, 6 152 blessés et 2 562 disparus. Mesurer, quantifier, établir des modèles, des données, des statistiques, c'est une manière de procéder face à une catastrophe. Mais c'est aussi tout son problème. Sa quantification ne dira rien de ce qu'elle a été, de sa valeur, ni de ce qu'elle a produit sur les habitudes, les mentalités, les mœurs des Japonais qui ont subi Fukushima. Sa mesure, donc, ne dira servira rien de sa démesure. Faut-il alors renoncer à appréhender toute catastrophe? Faut-il faire comme si de rien n'était? Eh bien, paradoxalement, c'est ce qui s'est passé avec Fukushima. On a administré, on a géré, on a refroidi l'événement. Reprendre la vie telle qu'elle était, normale, avec les mêmes centrales nucléaires, le même gouvernement, les mêmes quotidiens.
Des kilomètres de côtes vont subir le même sort. Parmi les lieux les plus touchés, Minami Sanriku. C'était une ville portuaire, voici tout ce qui en émerge désormais. Dans cette seule région, le bilan dépassera selon les autorités les 10 000 morts. Séisme, tsunami et hier une dernière image glaçante. Cette explosion au loin, une centrale nucléaire. Sous le toit éventré, un réacteur en surchauffe. Au Japon, l'homme n'est plus seulement confronté à la nature, mais à sa propre création.
Le deuxième temps de la catastrophe de Fukushima, c'est l'explosion de réacteurs 1, 3 et 2 dès le 12 mars à la centrale Fukushima Daiichi, entraînant incendies et contamination sur plusieurs années, encore maintenant et même en faible dose. Singulière, démesurée, une catastrophe ne se finit en plus jamais. Comment, encore une fois, appréhender un événement dont on peut sûrement décrire le déroulement, les épisodes successifs en chiffres et en faits, dans l'espace et dans le temps, mais qui pourtant continue de s'étendre, de durer, d'exploser en sourdine. Alors cette fois-ci, ce n'est pas que le problème de la démesure de l'événement qui se pose, cet événement impossible à saisir, mais la question de la démesure de ses effets. Ce n'est pas que le bouleversement à un instant T qui a eu lieu, c'est un bouleversement continu, une révolution en long qui pourtant ne s'est pas accompagnée de la part des politiques d'un changement de modèle ou au moins de règles et d'usages. Alors encore une fois, comment faire? Reprendre la vie normale est absurde, mais reprendre une vie sans normes semble impossible.
Miyako Baba fait partie de ceux qui doivent fuir. Elle habite à seulement 3 km de la centrale, en pleine zone rouge. Ici, l'évacuation est obligatoire. En cas d'accident nucléaire, elle sait qu'elle sera mortellement touchée.
Il y avait des annonces de précaution à la télé. On nous disait qu'il fallait porter des masques. On devait porter des chapeaux, on devait porter des vestes. Il fallait se protéger.
Troisième moment de Fukushima, on y est encore et c'est toute la question posée ici, sa gestion. Comment gérer la démesure? Comment gérer, comme l'indique le titre du livre, Fukushima et ses invisibles, à savoir tous ces bouleversements quantifiables, sa révolution distendue, mais aussi toutes les histoires particulières qui constituent la catastrophe, ces expériences individuelles racontées qu'on a entendues là, mais aussi racontées dans ce recueil, les sensibilités de chacun. En exergue du livre, il y a cette citation de Walter Benjamin, que les choses continuent comme avant. Voilà la catastrophe. Faire comme si de rien n'était est une catastrophe. Reste donc désormais à penser, à redéfinir la réalité de la réalité. Et c'est peut-être l'enjeu d'une catastrophe, moins la définir elle que repenser toute notre réalité.
Rappelez-nous le titre du livre dont vous nous avez parlé, Géraldine.
Eh bien, c'est Fukushima et ses invisibles, cahier d'enquête politique. C'est paru aux éditions des Mondes Affaires et je signale que c'est une très jolie édition.
C'est vrai, bleu marine.
Avec des illustrations à l'intérieur et c'est présenté d'une manière assez agréable à lire. Enfin, il faut le lire de toute façon.
Très bien, c'est noté et il faut réécouter votre chronique en ligne, le journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui prépare pour vous chaque jour une émission. Aujourd'hui, c'était Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Patrick Dandré, aidé de David Pargamin, Maude Markiewicz, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Guillaume Ledu et Morgane Danan qui étaient à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve non pas demain, car demain, Ascension oblige, et bien nous provoquerons Molière qui nous a accompagnés depuis lundi en diffusant une heure de messe pour vous, chers auditeurs. Et on se retrouve vendredi pour les chemins du vendredi. J'aurai le grand plaisir de recevoir Joseph Chovanec pour son livre « Nos intelligences multiples ». D'ici là, si vous souhaitez réécouter les émissions sur Molière, les trois qui ont eu lieu depuis lundi, c'est très simple et très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne, y compris les émissions de la semaine passée sur Hegel et encore celles des mois et des années passées. Et vous pouvez également les télécharger, les podcaster à volonté pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve vendredi à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.